Cette écriture est insufflée, théopneustos, insufflée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but que Dieu s'est fixé en nous donnant les Écritures. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, complet et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu. Et on va s'apercevoir que la parole de Dieu va constituer la pierre de touche des distinctions, des différences qui se manifestent de nos jours au sein des différents groupes de la chrétienté. J'utilise le mot chrétienté parce qu'il y a beaucoup de confessions qui se réclament de Christ, qui se réclament d'un Dieu, et utilisent souvent la même terminologie, les mêmes mots que nous utilisons. Donc c'est la chrétienté, le christianisme reflétant tous ceux qui se sont vraiment approchés de Jésus-Christ, approchés de Dieu par Jésus-Christ, par une conversion du cœur. Elle est très révélatrice, l'étude comparative des caractéristiques distinctives des chrétiens baptistes. Il y a deux approches intéressantes et pertinentes. La première, dite positive, s'intéresse au point de convergence entre les chrétiens bibliques baptistes et les autres églises. La seconde, dite négative, examine les points de divergence. Et en fait, à mon avis, ces approches doivent être complémentaires, elles doivent être nécessairement complémentaires, on ne peut pas faire simplement l'un, ignorer l'autre. Précisons d'emblée que la portée de cette esquisse comparative me contraindra à demeurer dans les limites des positions historiques des églises majeures. Il ne nous est pas possible de couvrir toutes les différences doctrinales existant parfois au sein même d'une confession donnée, De même, vous pourrez toujours déplorer l'absence de tel ou tel groupe qui nous aurait semblé digne de figurer dans ce tableau et de faire l'objet d'une comparaison avec les positions baptistes. Alors, laissez-moi d'abord vous expliquer l'organisation que j'ai donnée à cette information. Cette étude se propose d'examiner différents types d'églises dans six domaines particuliers. Précisément, ces domaines sont liés aux caractéristiques distinctives des chrétiens bibliques baptistes. Vous les avez tout en haut de votre page, là. C'est l'autorité de base pour la foi et la pratique. Quelle est-elle? Les qualifications pour devenir membre. Les qualifications pour le baptême. Le système ou la forme de gouvernement de l'Église. La relation entre l'Église et l'État. La position du croyant, j'aurais dû mettre croyant là plutôt que chrétien, la position du croyant devant Dieu. Alors, dans un souci de clarté et de fonctionnalité, le choix s'est porté sous la formule d'une charte. Et la charte s'articule, vous le constaterez d'emblée. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir tout mettre, mais je suis pas encore... J'ai pas encore complètement maîtrisé l'outil informatique là. Ce que j'aurais aimé, c'est de pouvoir tout mettre sur un seul tableau. Mais il y avait une telle densité d'informations que je n'y arrivais pas. Donc vos feuilles, il faudrait pratiquement les couper là, la deuxième partie, et puis la coller, la scotcher en bas, parce que ces tableaux, il faut les lire de haut en bas, il faut les lire de gauche à droite. Et donc, si vous avez le temps chez vous, vous faites ce que je viens de faire avec cette grande feuille jaune, vous les scotchez de cette manière-là. Alors, la charte, vous le constaterez, s'articule autour des positions bibliques. C'est normal. Ces dernières viennent évidemment toujours en premier. Les chrétiens bibliques baptistes disent qu'ils sont des hommes du livre, qu'ils aiment la parole, qu'ils obéissent aux Saintes Écritures, donc la parole de Dieu vient en tout premier. Puis, notez, j'ai mis la position Baptiste, elle est énoncée afin que nous puissions observer sa totale harmonie avec les instructions bibliques. Viennent ensuite les divers groupes religieux, hein, les formulations des différents groupes religieux, avec, vous le constaterez, hein, des degrés de fidélité relatifs. Et le simple examen de cette charte permet, un, de clarifier les positions baptistes comme entièrement scripturaires, et c'est important pour moi, c'est important pour vous. Deuxièmement, de mettre en exergue certaines lacunes, certaines déviations chez d'autres groupes religieux, et encore une fois, notre but n'est pas de critiquer, n'est pas d'enfoncer, hein, c'est simplement pour dire, voici la réalité, hein, voici la réalité. Troisièmement, le but recherché, hein, ce simple examen permet de militer, à mon avis, pour le renouvellement d'une prise de position ferme et sans compromis là sur nos valeurs bibliques baptistes. Et il est urgent que les chrétiens baptistes se rendent compte de la place absolument remarquable qui est la leur, qu'ils occupent, hein, dans leur relation par rapport à Dieu et dans leur rapport vis-à-vis des autres églises. Un simple survol de cette charte révèle des désaccords majeurs, hein. D'abord, les désaccords majeurs des différents groupes religieux entre eux, mais surtout, les désaccords avec la parole de Dieu. Hein. Et des désaccords, évidemment, il en coule de source avec les caractéristiques distinctives des baptistes. La première colonne, c'est quelle est l'autorité de base pour la foi et la pratique. Et ça, c'est vital, ça. Ça, c'est fondamental. Quelle est l'autorité de base pour la foi et la pratique? Alors, certains groupes considèrent la Bible comme une autorité. Tous ceux qui se réclament de la chrétienté, là, reconnaissent que la Bible a sa place quelque part. Une autorité. Les catholiques l'ont mis pratiquement en troisième position, hein, altéré par les interprétations du pape et par les spéculations de la tradition. Mais c'est une autorité, ce n'est pas l'autorité. D'autres sont allés un pas plus loin en affirmant que la Bible était l'autorité suprême. Mais ils ont menotté la Bible avec des traditions, des livres de prière, des credos, des catéchismes, et pour certains éléments récents, les expériences. Les expériences viennent maintenant menotter la Bible. Le plus souvent, ces autres autorités, entre guillemets, ont servi en fait à faire dire à la Bible ce qu'on voulait qu'elle dise. La tradition a altéré la Bible, comme la tradition a altéré l'Ancien Testament chez les pharisiens. Et les diverses philosophies sont venues se greffer et ont altéré profondément, hein, le message de la parole de Dieu pour ceux qui sont devenus libéraux, pour ceux qui sont devenus modernistes, pour ceux qui sont devenus néo-orthodoxes. Le plus souvent, ces autres autorités, entre guillemets, donc ont servi à concocter une espèce de chrétienté, je dirais, qui avait l'heure de plaire aux hommes. Et sur cette base incorrecte, les interprétations de différents fondateurs ont ensuite été imposées aux générations suivantes comme normes de l'orthodoxie dogmatique. Certains vont se réclamer de Luther, et d'autres de Calvin, et d'autres de Wesley, et d'autres de toutes sortes de fondateurs, qui sont venus aux Écritures avec certaines présuppositions, et maintenant leurs adeptes suivent ces choses. Il y a un groupe qui est mentionné dans cette charte, il est sur la deuxième page, hein. Je l'ai mis entre guillemets, c'est Église chrétienne, c'est pratiquement au milieu de votre deuxième page. Hein. Ce groupe Église chrétienne n'accepte que la partie néo-testamentaire de la Bible, seulement le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Or, comme l'observent les églises baptistes, toute l'Écriture, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le verset de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, hein, toute Écriture, Ancien Testament, Nouveau Testament, toute écriture est inspirée de Dieu. Or, ce groupe, Église chrétienne, n'accepte que la partie néo-testamentaire de la Bible. Et pour nous, au contraire, la Bible constitue l'unique base pour définir notre foi et définir nos pratiques chrétiennes. Quelle est l'autorité de base pour la foi et pour la pratique? Deuxième chose. Quelles sont les qualifications pour devenir membre? Alors, la chose semble claire dans les Écritures. Pour devenir membre à Jérusalem, il fallait se repentir, il fallait croire en Jésus-Christ. Pour devenir membre, il fallait confesser Christ publiquement, et alors suivait la pratique du baptême d'eau, et on insistait sur une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. La plupart des groupes religieux écartent en fait l'enseignement de la parole de Dieu en baptisant les inconvertis. On baptise des nourrissons ou on baptise des inconvertis à l'aveuglette en espérant que par l'éducation, que par le catéchisme, quelque chose se produirait. Ils ont en fait inversé l'ordre biblique. L'ordre biblique, c'est croire, la foi, puis le baptême. Ils ont inversé cela en disant le baptême et ensuite catéchisme pour croire. Cette fâcheuse inversion introduit toutes sortes d'inconvertis, évidemment, parmi les membres de ces communautés. D'autres groupes n'admettent que sur la base d'une profession de foi crédible, mais par pragmatisme, le mode du baptême a été modifié. On n'a pas retenu l'immersion. Et cette question va faire l'objet d'ailleurs de commentaires supplémentaires là, lorsqu'on arrivera à ce groupement-là. Parmi les groupes qui sont demeurés attachés sur ce point, à l'enseignement scripturaire, en dehors des baptistes, on va trouver certains mennonites qui pratiquent encore le baptême par immersion, confession de foi, claire en Jésus-Christ, certains pentecôtistes, pas tous, parce qu'il y a une certaine largesse de vue en ce qui concerne le mode de baptême. Alors, quelles sont les qualifications pour devenir membre dans l'Église de Jésus-Christ? Une confession de foi, claire, de salut en Jésus-Christ, et puis ensuite la pratique d'un baptême par immersion. Alors, nous en venons à la question du baptême. Quelles sont les qualifications pour le baptême? Les Écritures établissent indubitablement que le baptême s'administrait aux seuls croyants, s'administre aux seuls croyants, encore aujourd'hui, c'est pas parce que la pratique date d'il y a 2000 ans qu'elle a forcément changé. Le baptême s'administre aux seuls croyants par immersion sur une profession de foi crédible. Tout en en conservant le principe du baptême, nombre de groupes religieux violent ouvertement les instructions bibliques sur un ou plusieurs aspects de cette institution. Il y a violation des qualifications lorsqu'on administre le pédobaptême, le baptême des nourrissons. Il y a invalidation du baptême en l'administrant par un mode inapproprié. L'aspersion ou l'infusion, l'image du baptême est complètement altérée et détruite lorsqu'on pratique le baptême d'eau par ces modes. Sur ces deux points, la plupart des groupes religieux se trouvent en porte-à-faux par rapport aux Écritures. Soit ils baptisent les nourrissons, soit ils vont pratiquer le baptême, mais d'une manière invalide, inappropriée. Fort étrangement, ceux qu'on appelle là les frères de Plymouth, les darbistes, n'exigent pas le baptême par immersion du croyant. En fait, ils ne prennent pas position sur l'aspect du mode de baptême et acceptent comme membres ceux qui ont été aspergés ou infusés dans l'enfance. Je n'ai pas mentionné dans cette charte ces églises évangéliques dites libres, et où l'on enseigne qu'ils ne prennent aucune position sur la question du mode du baptême. Et dans certaines de ces églises les plus extrêmes, on n'en pratique pas du tout. Il n'y a pas de baptême. Il y a l'église chrétienne, hein, je voudrais revenir à ce groupement-là. L'église chrétienne, donc ce sont des gens qui se sont constitués autour d'un certain Campbell, enseigne que le baptême complète le salut. Et donc est une, comment dirais-je, un élément nécessaire au salut. Et quand bien même, donc, cette église pratiquerait l'immersion, son baptême est invalide puisqu'il y a une grande confusion dans la signification du baptême. Hein? Où l'on voit un baptême qui ajoute au salut, qui complète le salut. Les Mennonites, les Pentecôtistes présentent en leur sein de bien singulières variantes allant de la position biblique pour un grand nombre d'entre eux à des formes et à des conceptions qui ne sont pas valables. Je me souviens lorsque j'étais à Thionville, il y avait une chrétienne, nul doute à ce sujet, dont l'église, la communauté venait d'imploser, c'était une église mennonite, et elle est venue à nos réunions et aimait beaucoup la prédication de la parole, aimait beaucoup la communion avec les frères. Et au moment du repas du Seigneur, hein, je disais toujours, voilà, selon la parole de Dieu, Matthieu 28, hein, il convient de faire des disciples de Jésus-Christ, hein, les amener à Christ, ensuite de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion, et ensuite, de leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prescrit, et sur la base de ces instructions, nous voulons respecter, nous voulons observer ceci dans notre Église. Et donc je disais, si vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé par immersion, vous êtes membre d'une Église biblique, eh bien, sentez-vous libre de vous joindre à nous pour le repas du Seigneur. Et cette personne est venue un certain temps, et puis un jour, elle est venue me trouver en me disant, moi, je suis très très gêné parce que j'aimerais bien participer au repas du Seigneur, mais vous semblez insister là sur cette question du baptême et du baptême par immersion avant de pouvoir participer au repas du Seigneur. Alors, j'ai pris le temps de prendre la parole de Dieu pour lui montrer que les Écritures attestaient amplement que dans la pratique biblique, ça a toujours été l'immersion. Baptizo veut dire immerger, plonger, submerger, ça ne veut pas dire autre chose. Si le Seigneur avait voulu qu'on choisisse une autre pratique, il aurait dit baptizo ou rantizo, hein, immerger ou asperger. Mais enfin, il l'a pas fait. Il a dit baptizo, immerger, au nom de la Trinité, hein, et c'est le signe de notre identification à la mort, ensevelissement et résurrection avec Jésus-Christ. Donc, j'ai pris le temps d'expliquer toutes ces choses avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, et la personne n'en démordait pas. Non, j'ai été baptisé, j'étais sincère. Mais qu'est-ce qui vous empêche de simplement faire, hein, ce baptême par immersion, et vous faites les choses selon la parole de Dieu?